un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Être de la paroisse, en langage catho, ça veut dire être gay. L'expression permet de se reconnaître, de s'identifier, de se sentir à l'aise, notamment au Vatican, où l'homosexualité d'une partie du clergé n'est plus un secret pour personne, depuis en particulier que notre confrère Frédéric Martel a publié son enquête vertigineuse au Saint-Siège avec son titre provocateur « Sodoma ». Mais combien sont-ils, dans leur petite paroisse, à lutter non seulement contre le célibat imposé aux prêtres, une contrainte unique parmi les religions du livre, mais aussi contre ce que l'Église a longtemps appelé le démon, le mal, la perversion, au mieux une maladie. Je rappelle qu'après des siècles de persécution des homosexuels, l'Église s'est aussi battue pendant toutes les années sida contre l'usage du préservatif et qu'elle a été à la pointe de la lutte contre le mariage pour tous. Or voici que sous l'impulsion d'une époque éclairée, des mouvements de lutte LGBTQIA+, l'Église catholique serait en train d'évoluer, officiellement. Voici donc quelques penseurs contemporains, comme le sociologue Jocelyn Tricou, qui essaie de déconstruire l'institution, de repenser la masculinité atypique de ce qui officie, bref, de l'analyser en termes de genre. Ainsi, le père Valentin et le père Tristan, qui ont accepté de se confier aujourd'hui, quoique de manière anonyme, même si ce ne sont pas des théoriciens, à leur façon, ils déconstruisent l'Église en essayant de réconcilier leur foi et leur désir de ne plus se cacher. Deux récits racontés par Timothée de Roglaudre.
Je m'appelle Tristan, je suis prêtre depuis une quinzaine d'années. Et j'ai la cinquantaine. J'ai grandi dans une famille très catholique, presque trop catholique, dans le sens où la religion envahissait tout le champ de l'éducation et de la vie quotidienne. Très fermée, malheureusement, sur beaucoup de sujets, et notamment sur le sujet de la sexualité, qui était totalement tabou. J'ai eu la vocation de prêtre à l'âge de 11 ans, en découvrant un des prêtres de ma paroisse qui avait l'air très heureux. Et ce que je comprenais du métier de prêtre, c'était qu'on devait aimer les gens et être aimé des gens. Et je trouvais ça formidable. Pour moi, c'était le plus beau métier du monde. La découverte de mon homosexualité, ça a été au même âge, c'est-à-dire en sixième. C'est la première fois que je me suis rendu compte que mon regard sur les garçons autour de moi était particulier par rapport aux autres et que je me sentais davantage attiré vers les garçons du collège que vers les filles. Et ça a été pour moi un drame. Je me suis découvert trop différent par rapport à mon milieu, par rapport à ce qui était acceptable, aussi bien dans ma famille que dans tout mon environnement. Et j'en ai souffert de très nombreuses années ensuite. Pendant 18 ans, j'ai lutté contre cette idée d'être prêtre. Je pensais que, évidemment, c'était pas compatible avec l'homosexualité. Par ailleurs, il y avait aussi la pression du mariage dans ma famille. Et c'est donc à l'âge de 28 ans, en faisant une retraite de discernement, que j'ai compris que ma voix était là depuis toujours et que j'avais envie au moins d'essayer. Et s'il y avait une chose à vivre avant de mourir, pour moi, c'était d'être prêtre. Donc une retraite de discernement, c'est avec, je l'ai faite avec les jésuites, c'est pendant 10 jours, on vient avec une question, et pour moi c'était, est-ce que je rentre au séminaire ou pas? Et la réponse au bout de 10 jours a été oui, a été vraiment confirmée par l'Esprit Saint et par mes accompagnateurs spirituels de l'époque. En arrivant au séminaire, donc tout s'est très bien passé puisque je connaissais pas mal le milieu déjà. Et j'ai été très transparent dès le départ avec mes supérieurs de séminaire et avec l'évêque de l'époque en disant « voilà, je vis une homosexualité depuis toujours ». Et on m'a toujours dit que c'était pas un problème et que je pouvais continuer ma formation au séminaire et devenir prêtre malgré tout. De l'autre côté, le sujet était totalement tabou, il ne fallait surtout pas en parler. Et ceci dit, je voyais des comportements quand même assez débridés chez certains camarades séminaristes. Et ces comportements étaient passés sous silence et il y avait une espèce d'hypocrisie hein, par rapport à ça. D'autant plus qu'à l'époque, le pape Benoît XVI venait de sortir une recommandation demandant de ne pas ordonner les séminaristes homosexuels. Donc là aussi, je suis retourné voir mes supérieurs pour en parler. Ils m'ont réconforté dans mon parcours. Mais à côté de ça, ils fermaient les yeux sur d'autres types de comportements dans le séminaire qui, moi, me paraissaient totalement incohérents avec une vocation de prêtre. Tout de suite en première année, j'ai rencontré une autre personne qui arrivait en même temps que moi. Assez rapidement, j'ai eu des sentiments pour cette personne qui était un peu plus jeune que moi. On a vécu au départ une belle amitié qui s'est transformée en affection avec le temps. Et on a vécu une relation homophile, très belle. Il refusait les relations sexuelles. Moi, sur le principe, ça m'aurait pas dérangé puisque je me sentais pas en incohérence avec mes engagements. Mais voilà, c'était ça n'a pas été possible et donc la relation est restée platonique jusqu'au bout. La relation a duré quand même une bonne douzaine d'années, mais c'était quelqu'un qui malheureusement était très mal dans sa peau et qui est donc parti. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'il y avait d'un côté l'activité de prêtre, je crois, doit se situer totalement dans le don de soi, hein, dans la gratuité des relations avec les personnes. Et par ailleurs, je peux avoir une vie personnelle qui m'est propre, et donc une affectivité, donc un besoin d'équilibre. Et dans ce besoin d'équilibre, je me sens libre d'agir. Donc l'Église n'a pas à se mêler de ma vie personnelle et en particulier sexuelle. Et donc je ne me sens pas en incohérence lorsque je développe des relations amicales ou affectives avec les personnes que je peux rencontrer, mais en dehors du cadre de mon activité pastorale, parce que ce que je n'accepterais pas, ce serait de mélanger en fait mon activité pastorale et mon affectivité. Je pense que ça créerait trop de confusion. J'accompagne des personnes homosexuelles, mais si c'est dans le cadre d'un accompagnement spirituel, il n'est pas envisageable pour moi, par exemple, d'aller sur le champ de l'affectivité avec ces personnes. Mais ce qui ne m'empêche pas, par ailleurs, d'avoir une vie personnelle avec des amis et d'autres cercles aussi, dans lesquels j'estime pouvoir vivre mon affectivité et, pourquoi pas aussi, ma sexualité, de manière à la fois équilibrée, mais libre aussi. J'ai trouvé un groupe de prêtres homosexuels. On se retrouve régulièrement pour pouvoir échanger justement sur notre équilibre de vie, sur notre affectivité. Et ça fait vraiment du bien. C'est très fraternel. Et quand je repars de là, je suis reboosté, sachant que nous sommes des quatre coins de la France. Et donc, on n'a pas l'occasion de se voir en dehors de ces rencontres-là. Nous vivons l'homosexualité aussi de manière très différente. Certains souffrent davantage de solitude que d'autres. Certains vivent aussi des aventures amoureuses ou sexuelles avec d'autres personnes. Tout cela, on l'accueille sans jugement. Et si un jour quelqu'un veut sortir du ministère en s'estimant intégré dans une relation stable et qui ne serait pas compatible avec ce qu'il souhaite pour lui-même, eh bien, on va aussi l'accompagner sur cette sortie de ministère. Je comprends pas très bien pourquoi on maintient cette règle du célibat. Et pour moi, en tout cas, elle n'empêche pas un prêtre de vivre pleinement sa vie affective et sexuelle aussi, dans la mesure où il ne s'engage pas maritalement avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe. J'estime au minimum à 50% le nombre de prêtres homosexuels aujourd'hui. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, j'ai été dragué par un prêtre qui était plus âgé que moi. J'ai été redragué autour de mes 30 ans aussi par un prêtre plus âgé. Donc c'est des réalités qui sont assez fréquentes en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'apprécie pas trop qu'on mélange l'affectivité à la pastorale parce que ça complique beaucoup les choses. Et donc ça crée aussi une homophobie dans l'Église parce que beaucoup de ces 50% de prêtres n'acceptent pas leur homosexualité et donc ils vont la reprocher aux autres, ils vont chercher à faire du mal à des personnes qui s'assument tranquillement comme homosexuelles. « Moi, j'ai très mal vécu mon homosexualité jusqu'à, je dirais, aux 30 ans à peu près, justement jusqu'à mon ordination d'une certaine manière. L'ordination, c'est lorsque nous devenons prêtres à la cathédrale avec les attributs que l'on peut ensuite avoir, notamment le pouvoir de célébrer la messe et de pardonner les péchés, par exemple. Et puis finalement, c'est seulement à l'âge de 45 ans que j'ai réussi à faire mon coming out, si on peut dire, en tout cas à rencontrer tous les membres de ma famille l'un après l'autre et avoir de très belles discussions avec eux. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis très en paix avec tout cela et tout mon entourage également, oui. Finalement, l'homosexualité est plutôt bien acceptée, même si dans ma famille, certains me disent « bon, de toute façon, les prêtres n'ont pas de sexualité, donc pour eux, je suis censé être ni hétéro ni homo, mais concrètement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. » Et ma sensibilité homosexuelle, au contraire, a, je crois, une belle fécondité aussi dans ma vie de prêtre et dans ma pastorale. L'hypocrisie ambiante dans l'Église fait qu'il n'est pas possible, en tout cas pour moi aujourd'hui, de m'afficher ouvertement homosexuel comme prêtre, parce que ce serait préjudiciable. Alors, pour moi, je le crains pas vraiment. Par contre, vis-à-vis de mes collaborateurs, je pense que ce serait soit pas du tout compris, soit ça leur ferait du tort, puisque d'autres personnes pourraient venir critiquer à ce moment-là nos activités pastorales et tout ce qui peut se vivre de beau, de vrai et de juste, sous cet angle-là, simplement de l'homosexualité, parce que certains sont profondément homophobes, parmi les prêtres aussi, malheureusement, et parmi les évêques, donc il faut être extrêmement prudent vis-à-vis de cette homophobie catastrophique. Moi, ça m'a beaucoup réjoui le texte du pape François récemment, Fiducia Supplicans, qui autorise donc la bénédiction de couples homosexuels. Et je trouve que le Vatican a eu des paroles très belles et très justes et que la France n'a pas été à la hauteur, puisque les évêques de France sont revenus en arrière par rapport à ce que proposait le pape François. Le pape François proposait une bénédiction de couples. Les évêques de France ont préféré parler d'une bénédiction de personnes, donc séparément, l'un et l'autre engagés dans une histoire. Je trouve que c'est d'une hypocrisie lamentable, parce que quand je bénis deux personnes qui vivent ensemble, il est évident que je bénis leur lien et leur relation également. Ce texte, Fiducia Supplicans, change tout dans la conception de l'homosexualité aujourd'hui dans l'Église, parce que c'est une porte ouverte, je pense, à une évolution maintenant enfin possible, notamment de la réécriture du catéchisme de l'Église catholique. Il y a plusieurs canons de ce catéchisme qui sont clairement homophobes, puisqu'ils dénoncent et condamnent les relations homosexuelles. Du coup, ce texte va évidemment permettre une évolution inéluctable, qui ne plaira pas évidemment à un certain nombre de confrères, mais qui sera nécessaire et obligatoire. Donc c'est vraiment fondamental. Pour moi, une bénédiction, ça peut se vivre évidemment dans un sanctuaire. Le texte le prévoit, ça veut dire dans une église. D'autres confrères me parlent de bénir entre deux portes rapidement et à l'abri de tout regard, comme si c'était honteux finalement d'être en couple homosexuel. Donc les interprétations sont diverses pour le texte en question, mais ce qui est sûr, c'est que il nous fera avancer peut-être même un jour vers un mariage sacramentel, pourquoi pas. Alors là, j'imagine déjà certains confrères crier au loup, mais pourquoi pas. Avant ce texte du Vatican, j'avais eu déjà une demande qui m'avait été faite il y a fort longtemps. Malheureusement, à l'époque, justement, pour le risque que ça me faisait prendre, vu que c'était un mariage en vue, très public, avec beaucoup de monde, 150 invités, je m'étais abstenu de faire une bénédiction à ce moment-là. Et le couple de lui-même avait finalement changé d'optique. Par contre, en ce moment, je prépare un couple très sympathique de deux hommes qui veulent se marier civilement et avec une bénédiction d'ici quelques mois. Et c'est un vrai bonheur de les accompagner et de me rendre compte que finalement il n'y a pas de différence en fait dans les questions et les problématiques que rencontre un couple homosexuel vis-à-vis d'un couple hétérosexuel. J'en accompagne aussi beaucoup et les questions sont finalement les mêmes. Mon nom l'homosexualité telle que je la vis m'a permis dans ma vie d'être ouvert à tout type de situation, tout type de minorité, de souffrance dans la société. Je me suis énormément investi dans la souffrance des jeunes, dans la souffrance des personnes isolées, des personnes âgées, des divorcés et remariés, etc. Toutes les situations de rejet me rendent sensible puisque moi-même, j'ai vécu ce rejet étant jeune, au collège et au lycée, par rapport à mon homosexualité.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis Valentin, j'ai 50 ans et je suis prêtre diocésain. Ma famille était catholique, non pratiquant. Je suis l'aîné d'une petite fratrie et vers l'âge de 10 ans, c'est surtout ma grand-mère maternelle qui m'a parlé de la foi, de Jésus, et c'est à cet âge-là que j'ai demandé à faire ma première communion, et c'est à cette époque-là que je date cet appel intérieur à devenir prêtre. J'ai participé à des activités comme beaucoup de jeunes dans le cadre de l'aumônerie, à la paroisse, au collège, au lycée. Je me suis pas mal investi aussi dans la liturgie. C'est le culte, ce sont les veillées de prière, les lectures à la messe le dimanche. Je n'ai pas eu une jeunesse un peu folle comme beaucoup de jeunes. J'étais assez rangé, studieux, j'aimais les études et mes loisirs, c'était la foi. La question affective, je ne me la posais pas pour la bonne raison que je voulais être prêtre. Donc je savais que je ne me marierais pas avec une femme, ça c'était certain. Et toutes les autres questions liées à la sexualité ne se posaient pas. Je parle volontiers aujourd'hui d'une forme de radicalisation religieuse à l'adolescence, au sens où la spiritualité avait pris toute la place. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait évoluer vers une communauté traditionnaliste au sein de laquelle je me suis retrouvé à l'époque, vraiment. C'était une belle liturgie et puis c'était aussi un discours très sûr. C'était blanc ou c'était noir. Et c'était rassurant pour le jeune que j'étais. Et donc cette forme de radicalisation religieuse à l'adolescence m'a vraiment conduit à choisir l'aile droite de l'Église. Donc après mes études, j'ai décidé d'entrer au séminaire, mais dans un séminaire d'une communauté traditionnaliste. Donc 6 années de séminaire, 1 année de spiritualité, 2 années de philosophie, 3 années de théologie. J'ai donc été ordonné prêtre à 28 ans. Au sein du séminaire où j'étais, la question affective était très peu abordée. Elle était abordée sous l'angle de la tentation, du péché. L'homosexualité, bien évidemment, était une abomination. Et les personnes qui se sentent avoir cette sensibilité doivent faire un travail de conversion personnelle, au moins pour être chaste avec l'aide de la grâce de Dieu, des sacrements et d'une vie rangée. La question de mon orientation affective s'est très lentement dévoilée à moi. J'avais enfoui ce qu'au fond je savais, mais sans mettre de mots là-dessus. J'ai bien senti pendant mon séminaire que je pouvais ressentir quelque chose pour tel séminariste. Mais évidemment, la prière et la pénitence aideraient à chasser cette tentation. C'est quand j'ai été ordonné que cette réalité de mon orientation affective homosensible, je préfère dire ce mot-là plutôt que homosexuel, est remontée à la surface assez vite et que j'ai pu mettre des mots parce qu'aussi je rencontrais des personnes homosexuelles, homosensibles, qui me confiaient leur détresse intérieure, femme ou homme, hein, et ce drame d'être à cause de ça dans le péché. J'avais envie de les prendre dans mes bras et de leur dire « mais je suis comme vous ». Je me souviens d'une conférence à laquelle j'avais assisté. Et comme j'étais dans une communauté traditionnaliste, j'ai porté la soutane. Et j'étais à cette conférence qui était à fond pour la manif pour tous. Et il y avait une jeune personne qui s'est manifestée en disant « je suis lesbienne et je suis chrétienne. Et pour moi, vous êtes un contre-évangile ». Et j'ai été bouleversé de son témoignage parce qu'elle m'a incendié, évidemment, à l'époque. Et moi, j'avais envie de lui dire « comme je vous comprends ». J'ai quand même passé, je pense, en gros 25 années de ma vie dans ce milieu, si je compte les années du séminaire et puis les années de ministère. Un jour, c'était trop contraire à moi-même. Cette mentalité « je sais tout, mieux que tout le monde », cette forme d'intolérance, c'était trop contraire à moi-même. Un jour, j'ai dit « stop, je ne peux plus être divisé intérieurement comme ça, ce n'est plus vrai ». Et donc, j'ai communiqué à mes supérieurs que je prenais du recul. J'ai pris contact avec l'évêque de mon diocèse. Et c'est comme ça que j'ai choisi de quitter la communauté dans laquelle j'étais pour demander à rejoindre une vie diocésaine. Dans la vie diocésaine vers laquelle je suis revenu, j'ai trouvé beaucoup de bienveillance. Mon évêque le sait, je lui en ai parlé. J'ai été accompagné spirituellement, aussi, je dirais, entre guillemets, médicalement. Hein, j'ai tenu à avoir un accompagnement avec un psychothérapeute pour faire un peu le point sur ma vie. La remontée en moi de mon orientation affective profonde a eu des conséquences très concrètes sur ma santé physique. Je ne dormais plus. J'ai fait, je ne vais pas dire une dépression, mais presque. Hein. J'ai été physiquement malade, j'ai dû être suivi par mon médecin de très près parce que mon corps n'en pouvait plus. Donc j'ai assumé de manière réelle, charnelle, mon homosensibilité. Et au final, j'ai choisi de demeurer dans le ministère sacerdotal et je suis prêtre avec tout ça. Je ne peux pas être autrement. Voilà. J'ai eu besoin, bien sûr, de rencontrer des prêtres qui, peut-être comme moi, ont les mêmes questionnements. Alors en fait, il y a deux chemins qui se sont présentés à moi. Le premier chemin, c'est la communion Béthanie. La communion Béthanie est donc ce lieu de communion dans la prière, au service de tous et toutes, mais spécialement des personnes homosensibles et transgenres. J'ai donc participé à une première retraite au sein de la communion Béthanie et j'y ai trouvé mon lieu spirituel. Et dans le même temps, j'ai eu contact avec un prêtre qui participe à un groupe de parole beaucoup plus militant pour prêtres, religieux et pasteurs homosexuels. Ce groupe est relié à l'association David et Jonathan, qui vient de changer de nom, DJ Arc-en-Ciel. Et la communion Béthanie et ce groupe ont été pour moi et sont pour moi des lieux vitaux. Vitaux. À l'heure d'aujourd'hui, je suis prêt à le dire publiquement, ça ne me gênerait aucunement. Non seulement ça ne me gênerait pas, mais j'aimerais bien que tout le monde le sache. Voilà. Après, est-ce que c'est au service du bien? Je ne sais pas. Voilà. Chaque chose en son temps. Je l'ai confié à l'occasion à des parents dont l'enfant est homosexuel et qui sont venus me dire leur tristesse parce que ils savaient pas comment faire et puis par rapport à l'Église et tout ça. Et à un moment donné, j'ai dit à ses parents, écoutez, si je vous dis ce que je vous dis, c'est parce que je suis comme votre enfant. Je suis prêtre de tout mon être, y compris mon orientation affective. Je l'assume et je suis heureux d'être qui je suis.
C'était Prêtre et gay, être de la paroisse, un reportage de Timothée de Roglaudre réalisé par Émilie Valla. Merci au Père Valentin, au Père Tristan, à l'association DJ Arc-en-Ciel, à Nathalie de Villancourt et l'association Reconnaissance. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Nour Mohamedi.